au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui embrasse un vaste domaine, l'écologie, la survie de la planète, le développement durable, le respect de l'environnement, la pollution, toutes ces questions dont nous entendons parler chaque jour. Mais l'originalité de ce livre est de les aborder sous un angle essentiel, celui de l'économie. L'économie verte, c'est le titre du livre de Philippe Jurgensen, économiste, professeur d'économie à l'École des sciences politiques de Paris, qui dirige également l'autorité de contrôle des assurances. Philippe Jurgensen, bonjour.
Bonjour Hélène.
Bonjour et surtout bienvenue dans ce studio que vous connaissez bien, puisque à Canal Académie, vous donnez fréquemment des chroniques d'économie qui sont d'ailleurs fort appréciées parce qu'elles sont beaucoup téléchargées. Alors, votre livre aborde de manière claire et accessible à tous, je le dis d'emblée parce que c'est important, les nombreux aspects des questions environnementales. Avez-vous voulu dresser un bilan?
Oui, je pense que l'environnement, c'est vraiment un problème d'ensemble parce que tous les problèmes se touchent, tous les problèmes se rejoignent. Il y a bien sûr la question très préoccupante du réchauffement climatique, mais quand la Terre se réchauffe, les océans se gonflent, les eaux montent, ça provoque des catastrophes naturelles, des inondations, mais aussi des sécheresses. Bon, tous ces phénomènes naturels sont évidemment touchés par le réchauffement climatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les problèmes de pollution. Les problèmes de pollution, ça va des déchets ménagers jusqu'aux activités industrielles ou à l'emploi de pesticides dans l'agriculture. Et cette pollution est encore aggravée d'ailleurs dans ses effets par le réchauffement climatique. Il y a la manière dont nous produisons de l'énergie. Est-ce qu'on le fait d'une manière propre ou d'une manière polluante? Ça change évidemment le climat pour tous. Et la manière dont nous vivons, le fait qu'on ne puisse plus boire l'eau de nos rivières ou y nager, est évidemment quelque chose, ou y pêcher des écrevisses. Et une chose que tout le monde constate facilement, mais il y a des effets beaucoup plus diffus sur notre santé, par exemple. Tous ces produits chimiques que nous respirons, que nous trouvons dans les produits qui sont cultivés avec des traitements chimiques, finissent par nuire sérieusement à notre santé. Regardez par exemple un problème aussi simple que l'asthme, enfin aussi simple, le nombre d'asthmatiques en France a doublé. C'est dû à la dégradation de l'environnement, à la pollution qui nous entoure, à la présence de microparticules qui viennent elles-mêmes des moteurs de voitures dans l'air. Tout se tient. Et pour prendre un autre problème, la biodiversité, nous avons un appauvrissement de la richesse des espèces naturelles dans notre planète qui est très dangereux parce que c'est aussi un réservoir, par exemple, de médicaments pour l'avenir qui disparaît progressivement si on ne fait pas attention. Et cet écrasement de la biodiversité est lié lui-même à la déforestation, à la désertification, à la pollution. Vous voyez, tous ces problèmes se touchent. Donc, on est obligé de prendre l'ensemble.
Vous êtes obligé de prendre l'ensemble, ce qui fait que votre livre, L'économie verte, donne au lecteur une vision assez panoramique, j'allais dire globale, de ces questions d'environnement. Et ça donne une information claire, une information complète, d'une certaine façon. Mais je suis impressionnée par le nombre de sources que vous avez sans doute dû consulter. Alors, quelles ont été vos sources ?
Oui, alors l'objet n'est pas d'être exhaustif, évidemment, mais il y a forcément beaucoup de sources parce qu'on touche à des techniques très différentes. Lorsqu'il s'agit de production d'énergie, il faut regarder les problèmes des combustibles fossiles, c'est-à-dire du charbon, du pétrole, du gaz. Est-ce qu'on peut arriver à les utiliser d'une façon moins polluante que ça n'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver des énergies de remplacement? Alors, il y a tous les problèmes technologiques des énergies nouvelles, du solaire, de l'éolien. Ce sont des problèmes d'ingénieurs, largement. Mais il y a aussi tous les problèmes du nucléaire, autres problèmes d'ingénieurs. Il y a aussi des aspects qui sont tout à fait différents et qu'on va trouver dans des livres d'économistes sur la manière d'inciter chacun à avoir un comportement plus responsable. Est-ce qu'il faut faire des taxes? Est-ce qu'il faut faire des marchés d'échange des droits à polluer, des marchés de finance carbone, comme on dit? Est-ce qu'il faut avoir des modulations des prix en fonction du caractère plus ou moins polluant, ou des prêts publics, par exemple, qui sont accordés pour faciliter l'installation dans les logements? Est-ce qu'on va favoriser les logements plus écologiques? Il faut souhaiter que oui, tout ça, c'est des problèmes économiques. économique qu'on va évidemment trouver dans un type d'ouvrage tout à fait différent. Les grandes références synthétiques, ce sont les travaux du GIEC sur le réchauffement climatique. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Il y a eu des travaux très intéressants de l'OCDE sur des perspectives environnementales à l'horizon 2030. Il y a les travaux de l'Agence internationale de l'énergie qui s'occupe non seulement des différentes formes d'énergie, mais aussi beaucoup plus largement des problèmes qui concernent le climat. Il y a les travaux du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est un peu la préfiguration de quelque chose qui serait très souhaitable, c'est-à-dire une organisation mondiale de l'environnement. Ça n'est pour le moment qu'un programme qui a des moyens assez limités, mais qui fait quand même des travaux synthétiques extrêmement intéressants sur les problèmes écologiques. Et puis, il y a de très nombreuses ONG qui font des travaux qui font aussi référence sur un certain nombre de plans. Pour n'en prendre qu'un, le Fonds mondial pour la nature, qui est beaucoup plus connu sous son nom anglo-saxon de World Wildlife Fund, a développé et maintenant vraiment la référence sur la notion d'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est la quantité de terre que chacun de nous consomme pour l'ensemble de ses besoins, pour se nourrir, mais aussi pour s'abriter et pour caser ses déchets. Eh bien, le WWF montre que déjà, si on additionne tous nos besoins, on dépasse d'un quart le total des surfaces disponibles sur la planète. Donc, on est en train d'épuiser progressivement nos ressources. Il y a des sources vraiment très, très nombreuses d'informations. Il faut glaner un peu partout.
Il faut glaner partout, ce que vous avez certainement fait, Philippe Jurgensen. En tout cas, vous n'avez pas voulu assommer vos lecteurs avec une multitude de chiffres, mais il y en a tout de même, parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans évidemment aborder et en tout cas présenter quelques chiffres. Et en même temps, vous avez eu cette excellente idée de renvoyer toutes les notes de vos sources sur le site Internet. Comme ça, ça, au moins, ça économise le papier, ce que je trouve déjà un premier geste écologique. On économise le papier.
Absolument. Il y a de très nombreuses notes. Il y en a 2000 environ. Et là, les amateurs de chiffres comme moi trouveront beaucoup de chiffres. Mais ils sont uniquement sur Internet, ce qui évite en effet de couper des arbres pour
inutilement,
les mettre sur papier.
Inutilement. En plus, je voudrais aussi vous poser une question sur l'économie en général. L'économie, elle est générée par les échanges, par le commerce, par la production, par la finance. Enfin, finalement, tout est économique, par les entreprises. Donc, dans ces milieux de l'économie, est-ce que vous observez une préoccupation, espérons-je, grandissante, ou en tout cas des engagements qui pourraient naître, des initiatives pour la survie de la planète ?
Il y a des initiatives de plus en plus nombreuses, aussi bien des États que des entreprises. Et on trouve maintenant des alliances d'entreprises qui, par exemple, prennent ensemble des engagements volontaires pour consommer moins d'énergie, pour traiter leurs effluents, pour limiter leur pollution, pour favoriser des bonnes pratiques écologiques. Pour prendre un exemple parmi beaucoup d'autres, il y a un certain nombre de grandes firmes de meubles qui ont accepté de n'utiliser que du bois dont l'origine écologiquement correcte peut être certifiée. C'est évidemment un pas en avant important. Il y a des entreprises fabricantes de métallurgie qui se sont engagées sur des programmes sur plusieurs années de réduction de leurs émissions, de leur consommation d'eau, parce que l'eau aussi est un produit, l'eau propre en tout cas est un produit qui devient rare, donc limitation de leur consommation de toute nature. Il y a beaucoup de firmes qui se sont engagées aussi dans des programmes, c'est très important, de recyclage de leurs déchets. Donc on doit dire qu'il y a une activité de plus en plus importante. Sur le plan financier, il y a aussi toute une série de programmes qui consistent à développer des fonds qui eux-mêmes investissent dans des activités écologiques ou dans ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable.
Donc,
alors,
donc
il y a quand même un problème.
Alors,
je ne suis pas totalement optimiste.
Il y a une prise de conscience et
il y a une prise de conscience et il y a une certaine pression de l'opinion pour aller dans ce sens. Mais ce que je crains beaucoup et ce qu'on est bien obligé de constater, c'est qu'il y a souvent un très grand écart entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement fait. Quelquefois, parce que c'est compliqué de mettre vraiment en œuvre ce qu'on a choisi de faire, mais aussi, il faut bien le dire, parce qu'il y a une certaine part d'hypocrisie. Alors, on a trouvé un terme pour identifier cette hypocrisie, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire laver vert. ça consiste à dire, regardez, je fais des choses écologiquement formidables, et en réalité, c'est de la poudre aux yeux, c'est-à-dire c'est quelques mesures peu significatives, alors que par ailleurs, on continue à polluer joyeusement.
On
un
se
certain
donne
nombre
bonne
de compagnies
ou...
pétrolières sont des spécialistes du greenwashing, c'est-à-dire qu'elles vont subventionner une conférence sur l'écologie, ce qui est très bien, et puis moyennant quoi, elles vont continuer, par exemple, à brûler du gaz fatal dans leurs torchères, ce qui est une horreur écologique.
Donc elle se donne une
ce qu'on appelle
une
le gaz
image,
fatal, c'est le gaz qui sort des gisements de pétrole en même temps que le pétrole. Et au lieu de le recycler, de l'utiliser, d'en faire quelque chose, on le brûle en pure perte. Donc on fait du réchauffement climatique pour zéro utilité.
Je voudrais, Philippe Jorgensen, vous interroger sur deux mots que j'ai rencontrés dans votre livre et que je ne connais pas. Alors c'est le mot « éconologie » et le mot « économie circulaire ». Alors, « éconologie ».
Vous qui êtes une excellente littéraire, vous avez tout à fait raison de me critiquer sur l'utilisation d'éconologie parce que c'est un mot qui n'existe pas encore. C'est un néologisme. Je ne l'ai pas tout à fait inventé. Il a été utilisé par quelques autres avant moi, mais enfin, c'est encore un mot tout à fait nouveau. Ce que ça cherche à exprimer, c'est bien sûr la combinaison de l'économie et de l'écologie. Il y a un certain nombre d'altières mondialistes écologistes qui disent qu'il faut mettre par terre la globalisation, le marché, tout reconstruire autrement. Je ne crois pas. Je crois que le marché est quand même le mode de gestion économique le plus efficace, à défaut de tous les autres, et qu'il faut simplement l'inciter, l'orienter dans le bon sens. Bien sûr que si c'est rentable d'économiser l'énergie, les gens vont économiser l'énergie. Pour ça, il y a des moyens. Il suffit de valoriser les économies d'énergie en ayant sur les marchés un prix de la tonne de carbone économisée. Ça peut se faire avec des mécanismes de marché comme les échanges de droits à polluer. C'est d'ailleurs ce qui se fait déjà en Europe avec le marché dit European Trading Scheme. Mais il y a bien des manières d'inciter. Prenons un autre exemple. Le prix de l'énergie doit être facturé à son vrai prix. Or, beaucoup de pays, notamment des pays en développement, subventionnent l'énergie. Vous avez des pays qui ont très peu de ressources et qui, au lieu de développer l'éducation ou de protéger leurs forêts, vont subventionner les consommateurs d'essence. C'est un non-sens, c'est une absurdité scandaleuse. Il y a bien sûr des motifs politiques qui les poussent à le faire, mais il faut essayer de lutter contre ça. Donc, on peut trouver des mécanismes d'incitation économique qui vont aller dans le sens de l'écologie au lieu d'aller dans le sens contraire. La rentabilité peut très bien être dans l'économie verte. Il faut simplement mettre en place les systèmes qui permettent d'aller dans ce sens-là. Voilà pour ce néologisme dont je m'excuse.
Voilà. l'économie circulaire, alors ce n'est
alors,
qu'un
l'économie
qu'un
circulaire,
des outils,
c'est aussi une expression assez nouvelle, mais l'idée est simple à la base. Ça consiste à se dire que ce qui est le déchet d'une industrie peut être la matière première d'une autre. Par exemple, il y a des métaux rares qui se trouvent un peu partout. Un ordinateur, par exemple, contient des tas de métaux rares, non seulement du cuivre qui commence à valoir assez cher sur les marchés, mais de l'or, du palladium, des tas de produits qu'on peut récupérer au lieu d'entasser les vieux ordinateurs dans des déchetteries ou pire, dans des décharges sauvages. Il faut récupérer leur contenu. Alors, ça nécessite bien sûr un travail. Déjà les trier, les regrouper et puis ensuite exploiter ce gisement. Même chose pour les vieilles voitures, même chose pour les vieux papiers. Le papier peut être recyclé pratiquement indéfiniment et resservir.
Évidemment, donc, ça a un coût.
Oui, bien entendu, mais les déchets, par exemple, des imprimeries vont servir à fabriquer du papier qui va pouvoir être réutilisé dans le circuit. Alors, les Chinois sont déjà assez avancés dans un certain nombre de circuits de ce genre et je pense que c'est un des secteurs de l'avenir. Naturellement, on ne pourra pas fonctionner uniquement à partir de déchets recyclés. Il faut un petit peu d'introduction de quantités nouvelles à chaque stade, mais malgré tout, une quantité tout à fait appréciable, majoritaire, de la production pourrait être alimentée par ce système d'économie circulaire.
Philippe Jorgensen, vous avez divisé votre livre « L'économie verte » en trois parties. La première, c'est au fond un constat, un bilan de la situation actuelle. Elle n'est pas très brillante. La deuxième partie, il traite des outils, des deux outils qui la science et l'économie qui doivent se mettre au service de la nature. Et la troisième partie, elle propose des pistes économiques pour combattre les problèmes et tenter de les résoudre durablement. C'est un peu pour donner une idée du schéma de votre livre. Alors, on ne peut pas ici aborder dans le cadre de cette émission tous les points de vue, mais il y a un point de vue que vous abordez dans votre première partie que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Vous résumez les arguments de ceux qui contestent le réchauffement climatique. Vous donnez la parole aux opposants, à ceux qui ont des réticences sur ce discours ou à ceux qui mènent des mauvais combats d'ailleurs. Pourquoi leur donner la parole justement ? Pourquoi prendre en compte leurs arguments ?
Je pense que la défense d'une thèse n'est crédible que si on a au moins examiné les arguments de la thèse opposée. Sinon, on cède vraiment aux préjugés. Donc, j'ai bien sûr regardé en détail les thèses des sceptiques. Certains d'entre eux, comme Björn Lomborg, d'ailleurs, sont d'anciens écologistes, défroqués, si on ose dire. Bien sûr, ça mérite d'être regardé. Quelqu'un comme Claude Allègre aussi, qui est une grande référence en France, soutient... qu'il n'y a pas vraiment de réchauffement climatique, en tout cas qu'il est récent, qu'il n'est pas sûr qu'il soit d'origine humaine, etc. Quand on regarde en détail ces thèses, franchement, on n'est pas convaincu. Par exemple, il y a des gens qui disent que c'est dû en réalité aux variations de l'activité solaire. C'est faux. Ça a été mesuré très précisément. Il y a un cycle des taches solaires de 11 ans qui est bien connu. Et en réalité, la quantité de chaleur reçue du soleil par la Terre depuis un quart de siècle a plutôt diminué qu'augmenté. Donc, ce n'est pas la cause du réchauffement climatique. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Il y a certains points sur lesquels les sceptiques ont raison. Par exemple, on a tendance, parce que ça paraît être le bon sens, d'attribuer l'accroissement du nombre de cyclones au réchauffement climatique. Il n'y a probablement pas de lien vraiment démontré. Le GIEC lui-même dit que c'est simplement un lien probable, mais ce n'est pas sûr du tout. Mais je crois que malgré les arguments des sceptiques qui ont expliqué, par exemple, que c'était des... miroitement statistique qui faisait qu'on mesurait une augmentation de température, les preuves scientifiques sont quand même très très fortes dans le sens d'un réchauffement climatique assez marqué depuis un siècle, environ 3/4 degré, sur l'ensemble de la Terre. C'est beaucoup plus dans certaines régions, c'est moins dans d'autres. Mais enfin, en moyenne, 3/4 degré en un siècle. Alors, ça paraît peu, mais c'est en réalité extraordinairement rapide. Un des arguments des sceptiques est qu'il y a eu des périodes dans le passé où la Terre était plus chaude. Il y a eu des périodes plus chaudes, en effet, où d'ailleurs, il y avait plus de CO2 dans l'air. Ça montre bien qu'il y a un lien entre les deux. Mais ces périodes se sont produites à l'échelle de temps géologique. Les réchauffements se sont étalés sur des milliers, des dizaines de milliers d'années. Là, on est sur des rythmes de l'ordre d'un degré par siècle, et ce sera probablement au XXIe siècle, d'après toutes les prévisions, beaucoup plus d'un degré. Ce sera entre 2 et 4 ou 5 degrés. Donc ça va être un réchauffement très considérable, et à cette vitesse-là. On n'a jamais connu un tel phénomène aussi loin qu'on puisse remonter dans les temps géologiques. Donc voilà, je ne suis pas vraiment convaincu par les arguments des sceptiques. Certains méritent d'être examinés. D'autres ont dû être retirés après avoir été combattus victorieusement par les partisans de la thèse du réchauffement climatique d'origine humaine. Et dans l'ensemble, dans la plupart des cas, on peut considérer que ces opinions ne tiennent pas. De toute façon, ce que je pense, c'est que si ceux qui sont inquiets pour le climat, si les écologistes ont raison, il y a une telle urgence, il y a un tel danger que l'avenir même de notre planète est menacé, c'est-à-dire est menacé à assez court terme.
Oui, c'est sûr.
Si toutes les glaces fondent, par exemple, c'est pas quelques centimètres comme on le constate actuellement. En gros, il y a eu une hausse de 20 ou 30 centimètres des océans. On peut trouver que c'est pas terrible, mais ce sera 70 mètres. C'est-à-dire qu'une bonne partie des côtes et des terres seront englouties, purement et simplement. Donc, c'est un danger majeur. Il y a ces risques. De même, l'effet de réchauffement climatique peut s'emballer. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails ici, mais le réchauffement lui-même diminue la capacité d'absorption des océans, diminue la capacité d'absorption des forêts, risque de faire fondre des hydrates de méthane qui sont au fond de l'eau, etc. Et on peut à un certain moment avoir un emballement que plus rien ne pourra arrêter, et qui en là transformera la Terre en quelques siècles en un désert total. Donc le danger est tel que même s'il n'y avait qu'une chance sur deux, il y a beaucoup plus d'une chance sur deux en faveur des thèses des écologistes, on ne pourrait pas prendre le risque. Il faut agir. Le coût de l'action est sans commune mesure avec le danger de l'inaction.
Philippe Jürgensen, je vous propose qu'on marque une courte pause et on va se retrouver dans un bref instant.
Écoutez l'entretien sans phare avec l'écrivain Dominique Fernandez, élu à l'Académie française en mars 2007. Il raconte sa relation à son père, écrivain comme lui, évoque son parcours personnel et son œuvre de romancier et d'essayiste. Dominique Fernandez livre son sentiment d'avoir été longtemps un paria et raconte l'éblouissement ressenti face à un Pasolini dans La main de l'ange, livre qui lui valut le Goncourt en 1982 après le Médicis de 1974 pour Porporino ou Les Mystères de Naples. Cet entretien au micro d'Elisabeth Antebi est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Retour dans notre studio en compagnie de Philippe Jürgensen pour parler de son livre « L'économie verte » paru chez Odile Jacob en ce début du mois de février 2009. Alors, dans la deuxième partie de votre livre, vous montrez qu'on peut et on doit réconcilier l'économie et l'environnement. Et pourtant, c'est quand même bien l'appât du gain facile, l'argent facile d'une certaine façon, qui a créé bien des désordres, non ?
Ah, c'est tout à fait vrai. C'est évident pour beaucoup de gaspillage énergétique, pour le non-traitement des rejets des industries polluantes. Ça coûte un petit peu de trier et de traiter, donc on préfère se borner à rejeter ces saletés dans les rivières ou dans l'air. Bon, on est en train de réagir fortement contre ça, au moins dans les pays industrialisés. Mais enfin, c'est vrai que c'était la solution de la facilité et du moindre coût pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que finalement tout ça rétroagit et que la détérioration de l'environnement finit par coûter aussi aux entreprises, mais de façon beaucoup plus diffuse et indirecte. Et c'est ça qui est un problème, et c'est un problème économique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les externalités négatives, ce qu'une usine polluante, par exemple, fait subir à tout son environnement, en termes de réchauffement et salissement des eaux, pollution de l'air, détérioration de la santé, etc., évidemment très diffus, difficile à mesurer. Alors que ce qu'elle gagne en ne faisant pas les traitements de ses effluents, ben elle le voit tout de suite dans son compte d'exploitation. Donc on compare un gain pas si important que ça, mais immédiat et tangible, avec des pertes qu'on fait subir à beaucoup de monde d'une façon très diffuse et très difficile à mesurer. C'est un combat assez inégal et c'est pour ça qu'il faut intervenir pour inciter à mieux prendre en compte ces externalités négatives, comme disent les économistes.
Et dans la troisième partie de votre livre, alors vous examinez des moyens de résoudre quelques-uns des grands problèmes, combattre l'effet de serre, comment changer de stratégie énergétique, pour lesquels protéger les ressources naturelles, dépolluer, ce qui coûte d'ailleurs plus cher que polluer, comme vous venez de le dire. Donc il y a tout de même dans votre livre des solutions qui ne sont pas du tout inaccessibles.
Tout à fait. Je voudrais dire un mot sur un aspect important de ces solutions, parce que nous avons parlé beaucoup jusqu'à maintenant de l'économie, mais il y a une autre arme, heureusement, au service de l'écologie, c'est le progrès scientifique. Et sur ce plan-là, évidemment, je me situe aux antipodes d'un José Bové qui considère la science comme une ennemie. Pas du tout. La science est évidemment une alliée parce qu'elle est en train de nous apporter un tas de remèdes, si on veut bien les utiliser, naturellement. Mais on sait aujourd'hui fabriquer des emballages et des tissus totalement biodégradables à partir de matières qu'on arrive à produire d'une façon non polluante. On va savoir fabriquer des biocarburants de seconde et de troisième génération à partir de plantes qui poussent sur des surfaces désertiques, qui sont extrêmement résistantes, qui n'entrent pas en concurrence avec les productions alimentaires. On va arriver à dépolluer des sols même très gravement pollués ou des eaux polluées ou à traiter des systèmes à partir de bactéries qui sont capables de nettoyer complètement un environnement et même quelquefois de produire de l'hydrogène en plus pour avoir une source d'énergie. Il y a des progrès scientifiques absolument considérables. Simplement, il faut arrêter de considérer la science comme une ennemie. Je trouve que c'est malheureusement une dérive de notre société actuelle. Les gens se méfie de plus en plus du progrès scientifique, et c'est très très dommage. La généralisation du principe de précaution à cet égard est quelque chose que je trouve redoutable, parce qu'il est évident que l'expérimentation scientifique implique toujours une certaine part de risque, et si on veut exclure tout risque, évidemment on ne fait rien. Plus aucun progrès n'est possible. Et d'ailleurs, si on veut totalement exclure tout risque, il faudrait ne pas naître. Parce que, imaginez, tous les risques qu'on court dans une existence, d'abord celui de mourir à la faim, assez difficile à éliminer, celui de se faire écraser par une voiture, celui d'être malade, il faudrait ne pas naître du tout. Arrêtons de mettre sans arrêt en avant le principe de précaution, y compris pour les OGM, soit dit en passant, et acceptons de faire des recherches sur les OGM, de faire des recherches sur les nouveaux traitements médicaux, de faire des recherches sur les nanomatériaux, sur toutes ces substances innovantes qui vont nous aider à résoudre les problèmes. Je vais prendre un exemple précis. Ça va être très difficile de remplacer rapidement les combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon, par des énergies nouvelles. C'est très souhaitable, mais ça va prendre du temps, des décennies. Pendant ces décennies, on va continuer à brûler des combustibles fossiles et notamment de plus en plus de charbon. Les Chinois, qui ont beaucoup de charbon et pas beaucoup de pétrole, sont d'ailleurs les champions de ça. Et comme ils croissent très vite, la pollution par le charbon, ça croît à toute vitesse en Chine. Donc un enjeu essentiel, c'est ce qu'on appelle la capture et le stockage du carbone. On en parle beaucoup, on dit ça va résoudre le problème. Oui, à condition qu'on mette le paquet sur la recherche, sur le progrès scientifique, parce qu'aujourd'hui, on commence à savoir le faire, mais personne ne le fait réellement parce que ça coûte trop cher. Donc, il faut encore progresser dans les technologies de capture et de stockage du carbone. C'est-à-dire qu'au lieu de contribuer au réchauffement climatique, quand on fait de l'électricité, par exemple, à partir d'une centrale à charbon, on récupérera tout le gaz carbonique qui sort, on le stockera pour éviter qu'il se répande dans l'atmosphère. On commence à savoir le faire. On sait le faire grâce au progrès scientifique, et surtout pas en l'arrêtant, mais il faut encore faire des étapes supplémentaires dans ce domaine. Ce sera un des éléments de la solution du problème.
Si je comprends bien, vous n'êtes pas un adepte du retour à la nature.
Je ne suis pas un adepte du retour à la bougie, ni à la nature en général. Je suis un adepte de la protection de la nature. Par contre, il est évident que sur la biodiversité, il y a des enjeux de protection de la nature absolument considérables. Mais là encore, ça n'est pas en revenant uniquement aux techniques ancestrales de production qu'on va arriver à produire suffisamment pour vaincre la faim dans le monde. Je rappelle qu'il y a quand même près d'un milliard de personnes qui ont faim dans le monde tous les jours et encore davantage qui sont mal alimentées, partiellement sous-alimentées. Donc il va falloir les nourrir. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes déjà 6 milliards et demi. Nous serons plus de 9 milliards d'ici le milieu de ce siècle. Il faut donner de quoi se nourrir à toutes ces personnes-là. Et il faut donc qu'une agriculture à venir soit non pas moins productive, mais plus productive. Et plus productive, si possible, en utilisant moins de pesticides et de produits polluants. Comment on va arriver à faire ça sans OGM? Je pose la question. C'est complètement absurde. Il n'y a pas que les OGM, naturellement. Il y a des méthodes plus naturelles de sélection variétale qu'il faut aussi utiliser. Mais il faut, en gros, mettre tous les moyens dont on peut disposer en œuvre sans a priori idéologique.
Donc, réutiliser à la fois l'économie et la science au service de l'environnement et non pas pour abîmer l'environnement, comme on l'a fait jusqu'à présent peut-être. Il y a enfin une dernière chose que je voudrais dire à propos de votre livre, Philippe Jurgensen, L'économie verte, c'est que les annexes, ils sont très précieuses. Vous avez fait beaucoup d'annexes. 46 annexes qui sont comme des fiches qui résument des données particulières sur des problèmes. Vous avez fait aussi et vous proposez au lecteur un glossaire de tous les sigles qui concernent l'environnement. Ils sont innombrables.
On s'y perd facilement, oui.
Maintenant, grâce à vous, on ne s'y perdra plus. Alors, un petit mot sur ces annexes. On les appelle les annexes, mais en vérité, elles soulèvent des problèmes très importants et même essentiels.
Oui, bien sûr, on ne peut pas tout mettre dans le texte du livre, donc il y a un certain nombre de questions qui sont résumées dans les annexes, qui sont très variées. Par exemple, j'ai fait une annexe qui explique les problèmes de santé, l'aspect médical de tout ce qui est lié à l'accélération de la pollution et du réchauffement climatique. Bon, c'est un développement un peu plus technique sur ce sujet-là, qui avait moins sa place dans le texte, mais ceux que la question intéresse trouveront les détails dans l'annexe. Ou pour prendre un exemple tout à fait différent, le problème du stockage des déchets nucléaires, autre problème important qui préoccupe beaucoup l'opinion, mais qui est quand même assez technique, je l'ai développé dans une annexe plutôt que dans le corps du texte.
Autrement dit, si on voulait résumer votre position, est-ce qu'on pourrait dire, Philippe Jurgensen, que vous êtes un optimiste, mais d'une lucidité inquiète?
Oui, on peut tout à fait dire ça.
Ça vous convient,
je trouve que c'est un très bon résumé de ce que j'essaie de dire. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'être totalement pessimiste. L'humanité a toujours fait face aux défis successifs. Il faut simplement qu'elle prenne conscience que celui-là est vraiment un défi d'une grande ampleur et que ce n'est pas pour dans 50 ans, c'est tout de suite qu'il faut agir.
Très bien, merci beaucoup. Et je rappelle le titre de votre livre, Philippe Jurgensen, L'économie verte, comment sauver notre planète. C'est paru aux éditions Odile Jacob.
Merci beaucoup.